Il est 6h en ce jeudi 9 avril, bonjour et bon matin. On commence la journée en douceur ou pas, avec plein de chocs et d'électrodes partout.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Et on commence la journée avec le journal présenté par Valérie Favre. Bonjour.
Bonjour Yoann, bonjour à tous. La municipalité d'Aigle dévoile sa vision pour la gestion et la sécurisation de l'eau potable sur son territoire à l'horizon 2029. Une stratégie motivée notamment par la fermeture d'un des deux puits de la mêlée contaminée à un micropolluant, le triazole. Pour assurer l'approvisionnement en eau potable sur le long terme, deux solutions ont été retenues, notamment la construction d'une station d'ultrafiltration sur les sources de Fontanay et Fontaine-Claire pour éviter que l'eau ne devienne trouble en cas de forte pluie. Une infrastructure prévue sur les hauts de la commune, comme l'explique Maud Allora, municipale en charge de la gestion de l'eau.
L'idée, c'est d'implémenter cette station d'ultrafiltration au Farette. Donc, en fait, on peut arriver en gravitaire sur la station d'ultrafiltration, ce qui nous permet, en fait, de pouvoir utiliser cette installation, même s'il y a une coupure de courant, par exemple, et avec la pression en gravitaire par rapport à la différence d'altitude, on pourra traiter notre eau à tout moment.
Un crédit d'étude de 514 000 francs pour ce projet sera soumis au législatif Aiglon en mai. L'autre mesure retenue prévoit le raccordement au réseau d'eau intercommunal du Haut-Lac. Objectif, pouvoir importer de l'eau traitée de la commune de Roche en cas de crise majeure ou de sécheresse. Un sujet réalisé par Léa Journeau.
À Vevey, le quai Perdonnet fête ses 150 ans.
Et se raconte au musée historique. Depuis le 1er avril et jusqu'au 4 octobre, une exposition retrace l'histoire de cette promenade emblématique du bord du lac, construite en 1861 et 1876. Plan, objet et archives dévoilent un passé parfois méconnu. Un quai bâti sur le lac, marqué par des effondrements et plusieurs reconstructions. L'exposition montre aussi comment ce lieu est devenu, au fil du temps, un espace de vie central pour les habitants et un attrait touristique majeur. Les précisions d'Audrey Meyer, collaboratrice au musée historique de Vevey.
Le quai va être construit à une époque où on veut agrandir Vevey, où on veut l'embellir, justement notamment par la donation en fait, qui est faite par Vincent Perdonnet pour la construction de ce quai. Et puis, au fil du temps, il va être fortement apprécié par les habitants. Il aura aussi une forte valeur et un attrait touristique très très important. Et c'est comme ça aussi que la vie sur le quai va finalement se construire au fil du temps.
Des propos recueillis par Julie Gué. À noter que le public est également invité à découvrir ce qui se cache sous le quai grâce à des images sous-marines inédites. L'exposition est à découvrir jusqu'au 4 octobre au musée historique de Vevey.
Le chômage reste au-dessus de 3% en Suisse.
À 3,1% à la fin mars, selon les chiffres du secrétariat d'État à l'économie dévoilés hier. Il est même largement au-dessus de 4% dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et du Jura, bien qu'il soit en diminution. Les sans-emploi devraient être autour de 3% tout au long de l'année. Aux incertitudes géopolitiques et aux droits de douane fluctuants aux États-Unis est venue s'ajouter la guerre au Moyen-Orient. Quels effets néfastes en attendre pour l'économie suisse? Le chef de la division du travail au Séco, Jérôme Cosandet.
Pour l'instant, c'est difficile de les estimer. Je pense que la problématique viendra surtout du côté de l'inflation. Le prix du pétrole, le prix du gaz liquéfié vont augmenter. Alors certes, la Suisse, en comparaison avec d'autres pays, est moins dépendante de ces fuels, mais ça risque de faire une augmentation sur les prix. Ça risque aussi de renforcer le franc, le taux de change avec le dollar, avec l'euro, ce qui veut dire qu'une fois en plus, les industries exportatrices verront leurs produits plus chers à l'exportation. On verra peut-être aussi l'industrie du tourisme, qui aura peut-être une baisse de sa demande, mais ça reste très difficile à ce jour de faire une estimation. L'inflation devrait, selon nos projections, augmenter un peu, mais rester quand même bien en dessous de l'objectif de 2%, qui est l'objectif de stabilité des prix.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
En ski alpinisme, l'équipe de Suisse sort d'un hiver réussi en tout point.
Chez les hommes, Rémi Bonnet s'est adjugé le Grand Globe, tandis que le Valaisan Aurélien Gué et les frères fribourgeois Robin et Thomas Bussard ont joué les premiers rôles. Dans la catégorie féminine, la Boélande Caroline Ulrich et la Lesnoud Thibaut Dezen se sont, elles, hissées dans le top 10 du classement général. Sans oublier les médailles obtenues aux Jeux Olympiques par Marianne Faton et Yon Kistler, ces breloques permettront d'attirer l'attention du grand public sur le ski alpinisme. C'est le souhait de l'entraîneur national Jean-Philippe Fartaria.
Sur les médaillés olympiques, c'est clair qu'il y a eu un changement, beaucoup plus d'attention. Après, sur notre sport, on attend un peu maintenant les retombées. On espère pouvoir avoir un peu plus de soutien au niveau des sponsors aussi. On espère pouvoir profiter de ces Jeux olympiques pour faire connaître notre sport. Une chose qui a changé, je pense, c'est le fait que maintenant les gens savent qu'est-ce que c'est le sprint, qu'est-ce que c'est le relais mixte. On espère que pour 2030, on puisse mettre en format individuel attractif. Et voilà, on aimerait aller vers ça pour 2030.
Rendre l'individuel attractif, c'est faisable au niveau télévisuel, par exemple?
Je pense que c'est tout à fait faisable. Il faut avoir un parcours qui convienne aux athlètes et qui soit aussi faisable pour les organisateurs. Avec aussi les conditions de neige, la météo. Il faut trouver un compromis et j'espère qu'on trouvera un compromis.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. À noter que la plupart des membres de l'équipe suisse de ski alpinisme s'aligneront la semaine prochaine sur la patrouille des glaciers.
C'est devenu une tradition ces dernières années.
Chaque étape du Tour du Chablais fait le plein. Hier, à Viona, pour la première des 6 manches de l'édition 2026 de la manifestation, ils étaient 1468 à prendre le départ, adultes, écoliers et mini confondus. Dans la catégorie adulte, c'est Marie Antille, valaisanne d'origine et résidente de Renan, qui s'est montrée la plus rapide devant son linge chablaisienne Pauline Jex et Annelise Métraillé sur la ligne d'arrivée. Chez les hommes, le valaisan Vincent Mouton a avalé le parcours de 7,9 km en 25 minutes 11 pour l'emporter devant Aurélien Berthollet et Jules Herter. En football, le score nul et vierge 0-0 hier soir entre Montais et Cofrane dans une rencontre en retard du championnat de Première Ligue. Malgré l'expulsion en deuxième période d'un joueur neuchâtelois, les Rouges et Noirs ne sont pas parvenus à trouver l'ouverture. Les Chablaisiens restent ainsi sur 2 parties consécutives sans victoire après la défaite subie samedi face à Mérin. Au classement, Montais reste 4e mais compte désormais 8 points de retard sur le leader Saint-Pré.
Un acte 3 cherché avec les tripes.
Les Dragons sont sortis victorieux 2-1 de Genève hier soir à domicile. Ainsi, Fribourg-Gotteron a repris l'avantage en demi-finale des playoffs de National League. Menant 2-0 à l'entame du troisième tiers-temps, Fribourg a dû faire face au réveil des aigles qui ont fait trembler l'antre du dragon jusqu'au bout du temps réglementaire. Comme lors des 2 premiers actes, c'est l'équipe à domicile qui l'a emporté. À voir ce que Genève répondra vendredi.